Radio Okapi.
Présenté par Belinda Bosuma, voici le sommaire. Publication hier à New York du rapport du secrétaire général de l'ONU sur les mesures spéciales de protection contre l'exploitation et les abus sexuels pour l'année 2024. Ce rapport détaille les efforts déployés à l'échelle du système et souligne les efforts en cours pour permettre aux victimes de s'exprimer et d'avoir un meilleur accès à l'assistance et au soutien. Affaire Harish Jagtani, patron de HJ Hospital, accusé de financer les rebelles du M23 AFC, la défense de l'homme d'affaires fait savoir que son client est interpellé et entendu par le Conseil national de cyberdéfense pour des faits dont la nature infractionnelle reste douteuse. Ceci est contenu dans un communiqué publié hier à Kinshasa. Et puis, l'invité de ce matin, Shuna Lomponda, chef du service de communication de l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption. Elle s'exprime notamment sur l'implication des femmes dans la lutte contre la corruption. C'est en marge des activités liées au mois de mars dédiées à la femme. Sport tout d'abord, éliminatoire pour la Coupe du Monde 2026, la RDC remporte le duel de la cinquième journée face au Soudan du Sud. C'était hier vendredi au Stade des Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa. Score du match, 1-0 en faveur des Léopards. Grâce à cette victoire, la RDC compte 10 points. Elle se classe momentanément en deuxième position du groupe B derrière le Soudan. Madame, Messieurs, bonjour. Le rapport du secrétaire général des Nations Unies sur les mesures spéciales de protection contre l'exploitation et les abus sexuels pour 2024 a été publié à New York. Ce rapport détaille les efforts déployés à l'échelle du système pour renforcer sa capacité à prévenir et à répondre à l'exploitation et aux abus sexuels conformément à la stratégie du secrétaire général de l'ONU, affirme Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général Antonio Guterres. D'autres détails de ce rapport avec vous, Jude Mister Bilanda.
Ces rapports ajoutent que depuis 2017, les Nations Unies ont continué à consacrer une attention et des efforts considérables à l'amélioration de la manière dont les secteurs abordent la question. Les structures des coordinations à l'échelle du système, les normes mondiales, les outils techniques, la formation, l'amélioration des mécanismes d'établissement des rapports et les renforcements du soutien et de capacités au niveau des pays ont tous contribué à améliorer la prévention, la réponse et la transparence. Des efforts sont en cours pour faire en sorte que les victimes puissent s'exprimer et aient un meilleur accès à l'assistance et au soutien. Les fonds d'affectation spéciale au profit des victimes d'exploitation et d'abus sexuels a été d'une valeur inestimable, mais ils ne disposent plus que de très peu de fonds. Les secrétaires généraux exhortent les États membres à fournir un soutien adéquat et durable aux efforts de prévention ainsi qu'aux victimes et à leurs enfants. Pour mettre fin à ces fléaux, il est essentiel de s'attaquer aux problèmes sous-jacents tels que l'inégalité, l'extrême pauvreté, et l'absence d'état des droits. Les rapports soulignent également que les efforts sont déployés par les Nations Unies pour mettre fin à l'impunité et garantir la justice aux victimes.
Par ailleurs, en Ituri, la MONUSCO assure la protection directe des centaines de civils, en majorité des agriculteurs, dans leurs champs à Bogoro. Nous sommes à 25 km de la ville de Bunia, territoire d'Irumu. C'est à travers des patrouilles de combat qu'elle organise et qui se sont d'ailleurs intensifiées depuis les récentes attaques des groupes armés à Chomia, ce qui permet à de nombreux civils de vaquer librement à leurs activités et d'augmenter leurs activités champêtres et d'élevage dans la zone. Ézéchiel Mouzali a nous fait le point.
Les patrouilles de combat organisées presque chaque jour par les casques bleus indonésiens de la MONUSCO rassurent les populations civiles depuis des violents affrontements entre l'armée et les miliciens dans plusieurs zones lacustres à Chomia sur le littoral du lac Albert. Les femmes se rendent aux champs, les éleveurs à leurs fermes. Bref, les activités tournent normalement dans les villages environnants et au centre commercial. Témoignage de cette femme retrouvée dans son champ quelques heures après le passage des casques bleus.
Avant, nous craignions de fréquenter nos champs, mais aujourd'hui, grâce à la MONUSCO, nous cultivons paisiblement nos champs. Nous vivons très bien avec eux, ils font des patrouilles, même la nuit. Et si nous avons des problèmes, nous les approchons et ils nous aident.
De nombreux habitants dans ces centres confirment exercer leurs activités en toute sécurité. Ils exhortent la MONUSCO et le gouvernement de pérenniser cette académie pour espérer une paix durable dans la région.
Nous avions traversé une période très difficile ici à cause de l'insécurité en 2003. La population de Bogoro ne veut plus revivre encore cette situation. Tout le monde va qu'à ses occupations sans problème, sauf que dans les environs, nous apprenons le vol de bétail. Pour ça, nous demandons au gouvernement de rétablir la sécurité.
Bounia, Ezekiel Muzalia, Radio Okapi.
Pendant ce temps, la situation des milliers de Congolais vivant au Rwanda est devenue critique. Ce, depuis le rappel à Kinshasa des diplomates congolais. Nombreux ont vu leurs passeports et visas de séjour expirer ou arrivant à expiration sans être renouvelés. Du coup, ils se retrouvent en situation irrégulière. Face à cette impasse, ils ne savent quoi faire. Ils lancent ainsi un cri de détresse au ministère des Affaires étrangères de la RDC pour une solution urgente à leurs préoccupations. Ronéline Tibonera nous en dit plus.
Ils sont plus de 45 000 Congolais vivant au Rwanda, confrontés à des difficultés administratives majeures qui menacent leur stabilité, leur emploi, leur santé et leur dignité. Privés de laissez-passer tenant lieu de passeport, des milliers de Congolais ne peuvent plus renouveler leur visa de séjour. Sans passeport et sans alternative, ils se retrouvent en situation irrégulière malgré leur volonté de respecter la loi du pays hôte. Pour ceux dont les visas de séjour ont expiré ou arrivé à expiration, l'impasse est totale. Sans documents valides, ils risquent de perdre leur emploi, de voir leur candidature rejetée lors des tests d'embauche, d'interrompre leurs études universitaires ou encore d'être privés des soins médicaux. L'accès aux services essentiels risque de devenir aussi impossible sans documents migratoires et visa de séjour valides. C'est par exemple les opérations bancaires, obtention d'extraits des casiers judiciaires et des marches administratives. Les cris du cœur de la communauté congolaise du Rwanda et des sollicités auprès du ministère des Affaires étrangères de la RDC, la désignation de membres du personnel administratif local, comme chargé des affaires administratives courantes, afin d'aider notamment au renouvellement et délivrance des laissez-passer tenant lieu de passeport. Nous n'avons pas pu avoir la réaction du porte-parole du gouvernement ce vendredi.
Justice, je vous le disais en titre, la défense de l'homme d'affaires Arish Jagtani, patron de HJ Hospital, Suprême Automobile et tant d'autres services à Kinshasa, porte à la connaissance de l'opinion publique que son client est interpellé et entendu par le Conseil national de cyberdéfense depuis le 17 mars pour des faits dont la nature infractionnelle reste douteuse. Dans un communiqué publié hier, le cabinet Kibuka, qui défend Arish, rappelle aux médias le respect de la loi fixant les modalités pratiques de la liberté de la presse et du code sur le numérique. Elle met en garde contre la propagation des nouvelles susceptibles de porter atteinte à l'honneur de l'homme d'affaires qui jouit encore de la présomption d'innocence, a dit l'un de ses avocats, Poupou Benjamin, joint par Jeff Ngoy.
La défense de M. Arish Jagtani s'empresse-t-elle d'en appeler à la retenue, à la responsabilité de tous et davantage, au professionnalisme des médias tel que circonscrit par les dispositions de l'ordonnance loi numéro 23 fixant les modalités de l'exercice de la liberté de la presse et de celle de l'ordonnance loi numéro 23 portant code du numérique afin de préserver la sérénité de son audition et son droit à la présomption d'innocence. Il n'est nullement nécessaire de rappeler ici que l'avalanche de propos proférés à l'encontre de M. Arish Jagtani au moyen des montages d'informations pourrait donner lieu à des poursuites judiciaires dont il se réserve le droit. La défense de M. Arish Jagtani espère enfin que les services qui mènent les investigations auront à cœur de veiller au strict respect de la procédure pénale et se garderont de prolonger indûment son interpellation.
Dans l'actualité aussi, l'Assemblée provinciale du Kwilu met en place une commission ad hoc devant procéder à l'organisation de l'élection de son bureau définitif. La commission est composée de 5 députés en raison d'un élu par territoire et ils seront assistés de 5 administratifs dont les experts. La commission mise en place aura pour tâche notamment l'élaboration d'un calendrier électoral et du règlement électoral. La durée de sa mission est d'au moins 5 jours et prendra fin le jour du vote. Joël Ibilaba, questeur du bureau provisoire de cet organe délibérant, qui salue le travail abattu par ses collègues députés au cours de cette plénière, explique ici.
Cette plénière avait consisté donc à mettre en place une commission ad hoc qui doit travailler pour rédiger ou soit élaborer les calendriers électoraux, mais aussi les règlements électoraux, ces derniers qui va permettre à l'Assemblée plénière d'adopter cette résolution et cette résolution qui va nous amener à l'élection de membres du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du CUL. Et tout s'est bien déroulé, vous avez vu des interventions pertinente, des députés pertinents dans cette assemblée. Et finalement, nous avons adopté cette résolution. La commission est mise en place et sûrement elle a déjà commencé son travail. Elle a que 5 jours pour nous amener, pour nous fournir les calendriers électoraux, mais aussi les règlements électoraux. Et donc, ce sont ces documents qui vont permettre pour élire les bureaux définitifs de notre assemblée tant en tant que. Cette commission a plus ou moins 5 jours. Espérons que pendant la deuxième plénière qui sera organisée incessamment, nous saurons la date, n'est-ce pas, à laquelle l'élection de membres du bureau définitif sera organisée.
Les 5 députés qui composent la commission ad hoc sont Jean-Fils Ngaïkomo de Bagata, Mindanda Clémentine de Boulungu, Bena Mutui d'Idiofa, Abraham Mundedi de Gungu et Kiosa Urbain de Massimanimba. Autre nouvelle, la femme leader de Beni, chef-lieu provisoire du Nord Kivu, doit briser la peur mais aussi les stéréotypes pour participer pleinement à la restauration de la paix dans la région et dans toute la RDC. C'est l'une des recommandations issues d'une rencontre organisée hier par le bureau genre, famille et enfants de Beni en collaboration avec la section affaires civiles de la MONUSCO. Objectif, amener la femme à s'approprier la résolution 2773 pour le retour de la paix. Guylaine Kassassia, reportage.
Lors de cet échange, les femmes ont été informées sur la résolution 2773 relative au retour de la paix dans une région en proie à la guerre, comme l'explique Ruth Sabouni, chef du bureau genre famille et enfants de Beni.
Nous avons traité la question qui parle de la paix. Et pourtant, cette paix ne peut pas être rétablie si cette femme ne s'implique aussi pour la restauration intégrale de cette paix. C'est pourquoi il a fallu que les femmes qui chapeautent des structures féminines, qui ont le devoir de vulgariser certains textes, de mieux comprendre à simple que contient cette résolution.
Tout en saluant les thèmes abordés, le participant aurait recommandé de renforcer leurs compétences en matière de monitoring pour leur permettre d'apporter pleinement leur contribution à la restauration de la paix. Linda Sadiki Boulesou, de l'Union de femmes domestiques du Congo, IFEDOC, participante.
À l'issue de cet atelier, on vient de découvrir qu'une fois la femme travaille sur elle-même, sur ses compétences, à surmonter ses peurs, on est les bons acteurs pour le changement et pour la restauration de la paix. Si une fois on parvient à être capacité en matière de monitoring, elle pourra participer pleinement à cette restauration de la paix.
Cette activité a été organisée dans le cadre du mois de la femme en cours. Beni, Guylaine Kassassia, Radio Okapi.
L'entreprise DRC Gold Trading SA, spécialisée dans l'achat, la commercialisation et l'exportation de l'or, est installée au Maniema. Selon les autorités locales, cette entreprise du portefeuille de l'État vient résoudre la problématique de la non-traçabilité de l'or dans cette province, malgré ses potentialités dans ce secteur. Avec la présence de l'entreprise, les fournisseurs de l'or, soit les négociants de tous les coins de cette province, sont appelés à canaliser leur production aurifère auprès d'elle. Ils n'ont plus raison d'expédier leurs colis en dehors de la province, étant donné que le prix est le même selon des sources de l'entreprise. Détail avec Florence Kizalunga.
Le Maniema, une province riche en or, mais voici ce que son gouverneur Moussa Kabankoubi donne comme statistique.
Malgré les potentialités que présente la province du Maniema, estimée à environ 1 tonne d'or artisanale par an, il est regrettable de constater que le Maniema n'avait produit que 0,31 tonne d'or en 2019 et rien du tout entre 2020 et 2023. Et qu'en termes d'exportation, le Maniema n'a participé qu'à la hauteur de 0,19% sur ce que le pays a exporté comme or ces 5 dernières années.
Les directeurs de siège de DRC Gold Trading SA rassurent tous les fournisseurs. Amis Mujanaheri.
La DRC Gold Trading arrive au Maniema pour collecter tout l'or issu de l'exploitation artisanale et à petite échelle. Avec la Robank, la DRC Gold Trading voudrait rassurer tous ses fournisseurs qu'elle achètera cash tout or.
Réaction du président provincial des négociants, David Kikuni.
Si on allait avec notre or en dehors du Maniema, parce qu'il y avait l'absence du comptoir. Et aujourd'hui, le comptoir est installé. Dès aujourd'hui, notre or sera vendu dans le comptoir de Gersigold.
Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
L'actualité, c'est aussi le volcan Nyamulagira, de nouveau en éruption depuis vendredi 14 mars, sans menacer directement la ville de Goma, chef-lieu du Nord Kivu, indiquent nos sources dans la région. Pour un volcanologue contacté sur place, les images du satellite indiquent qu'une faible coulée de lave est observée au niveau du cratère de Nyamulagira en direction ouest et sud-ouest dans le parc national des Virunga. Bernardin Nyangi nous en parle.
La lueur observée par les habitants de Goma et du territoire de Nyiragongo mercredi soir et qui a accru l'inquiétude du public est due à un ciel dégagé, dit le volcanologue. Le directeur général de l'Observatoire volcanologique de Goma se garde encore de tout commentaire sur la question. Le docteur Georges Mavongo indique que, dans cette zone caractérisée par l'insécurité, il n'y a plus une surveillance des deux volcans par les équipes de terrain, excepté un mécanisme de surveillance par satellite à travers les partenaires. Toutefois, il n'y a aucun risque prévisible avec Nyamulagira pour Goma ou Sake, rassure d'autres volcanologues. Situé à 3058 mètres d'altitude, le Nyamulagira est un volcan très actif, mais dont la menace reste contenue principalement dans le parc national de Virunga, contrairement à son voisin, le Nyiragongo, qui domine Goma. Pour rappel, depuis la prise de la ville de Goma par le M23 AFC, les activités de routine de surveillance des volcans avaient été suspendus par le personnel de l'OVG, évoquant plusieurs contraintes techniques.
Actualité internationale.
Après des mois de combats acharnés, l'armée soudanaise annonce avoir repris le palais présidentiel à Khartoum, un site stratégique tenu jusque-là par les forces de soutien rapide FSR. Depuis avril 2023, la capitale soudanaise était en grande partie sous le contrôle des FSR, la milice dirigée par le général Mohamed Hamdan Daglo. Mais ces derniers jours, l'armée régulière, sous le commandement du général Abdel Fattah al-Burhan, a mené une avancée significative, coupant les lignes d'approvisionnement des forces adverses.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons Madame Shuna Lomponda, conseillère à la présidence et chef du service de communication de l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption, APLC. Dans le cadre du mois de mars dédié aux droits des femmes, elle s'exprime sur l'autonomisation des femmes en RDC et aussi sur l'implication des femmes dans la lutte contre la corruption. Shuna Lomponda est avec Ben Chokuta.
Madame Shuna, bonjour.
Bonjour, Monsieur Béandre.
Il y a un thème qui a été choisi cette année pour célébrer les droits des femmes. Pour toutes les femmes et les filles, droits, égalité et autonomisation. Quel est votre avis par rapport à ce thème?
Je trouve que par rapport à ce thème-ci, je viens également avec ma casquette de G100 Country Share Equity and Equality, donc de charger des questions d'équité et d'égalité, et par rapport au fait que ce sont des questions qui me titillent, on va dire, depuis plusieurs années. Pour en revenir au thème que vous avez dit, écoutez, je voudrais encore déjà appuyer, mettre l'accent sur le fait qu'il est primordial. Et en cela, c'est très important pour nous qu'il y ait une journée qui souligne les droits des femmes. Une journée qui nous permet de réfléchir sur ce qui a été fait avant et sur ce qui reste encore à faire demain. Par rapport à cette thématique liée à l'autonomisation, il y a de grandes avancées, mais cela depuis longtemps.
Donc vous confirmez, depuis l'indépendance de la RDC, jusqu'à ce jour, il y a un bilan positif de l'autonomisation de la femme.
Il y a encore du chemin à faire, mais nous ne pouvons pas devenir pessimo-sceptiques et nier, et nous le voyons, une belle illustration de ces avancées au niveau d'accès à des postes de décision. Au niveau de fonction de leadership, nous avons la première ministre, Son Excellence Madame Judith Suminwa-Tuluka, qui est une femme. Et en cela, la République démocratique du Congo n'a rien envié à personne.
Vous venez de parler de la première ministre Judith Suminwa. Le 8 mars, elle a alerté sur la situation que vivent les femmes dans l'Est de la République démocratique du Congo avec tous les conflits possibles, les violences sexuelles. Par rapport à son allocution, qu'est-ce que vous en pensez?
Ce que je vous dirais, c'est que si nous n'évoquons pas cette horreur auquel sont confrontées nos sœurs à l'est du pays, dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, et dans cette période de 8 mars, nous le ferons quand? Donc c'est tout à fait à propos que la Première ministre ait soulevé cela et rappelé la nécessité de se souvenir de ces femmes extrêmement résilientes. Donc c'est très important d'en parler. Moi, j'aime bien, il y a les constats et puis il y a les solutions. Ce que j'aime bien, c'est me focaliser sur les solutions. Quelles sont les solutions aujourd'hui? Le changement de perception, investir dans l'éducation et particulièrement la rééducation des hommes pour changer la perception des hommes vis-à-vis des femmes. Éducation pour que les hommes qui sont dans cette masculinité positive transmettent le message à leurs fils et qu'à leur tour, à leurs enfants, et qu'il y ait une nouvelle génération qui respecte les femmes.
Madame Funa Leponda, vous êtes chef de service de la communication de l'Agence de prévention des luttes contre la corruption, une institution rattachée à la présidence de la République. Parce que nous parlons de l'autonomisation de la femme, l'APLC implique-t-elle les femmes dans la lutte contre la corruption?
Écoutez, je suis déjà la preuve qu'il y a des femmes à un niveau de leadership. Certes, je ne suis pas cordon, je ne suis pas dans la coordination, mais je suis conseillère, chef d'un service. Et j'aimerais souligner que la coordonnatrice adjointe en charge de la détection, la prévention et de l'administration, Madame Bénilor Kamouzikou, c'est une femme okay. et qui a un poste de décision parce qu'elle est coordonnatrice adjointe de l'APLC. Maintenant, par rapport à ces questions-là, l'APLC a une oreille attentive par rapport à la question des droits des femmes, tout comme la question des droits humains, parce que l'égalité, l'équité est indispensable pour l'équilibre de nos jeunes démocraties. C'est indispensable pour avoir également une société qui rentre dans la bonne gouvernance et une société intègre.
Nous restons sur ce même thème, l'autonomisation des femmes et des jeunes filles. Je rappelle encore, vous avez piloté plusieurs projets, notamment en collaboration avec l'Union européenne, et vous êtes chef d'entreprise même, et puis lauréate de plusieurs prix, dont le titre d'ambassadrice de diversité, décerné par le ministre des Affaires étrangères belge, Philippe Goffin. Comment êtes-vous arrivé là? Parce que votre parcours peut motiver plus d'une femme. Comment êtes-vous arrivé là? Le secret?
Comment je suis arrivée à ces fonctions, c'est le travail et l'audace. Il faut beaucoup d'audace parce que dans la vie, tout n'est pas que question de technicité. Parfois, c'est une question d'oser. Les femmes, je les encourage à rêver grand, à oser accomplir leurs rêves. La détermination et puis le professionnalisme, parce que c'est ça qui vous fait avancer.
Madame Funa Leponda, merci.
Notre invité répondait aux questions de Ben Chokuta. Mais avant de clore complètement ce journal, notez que l'adversaire de Mohamed Ali dans le combat du siècle à Kinshasa, George Foreman, est mort. Deux fois sacré champion du monde, le boxeur américain s'est éteint hier à l'âge de 76 ans. George Foreman était entré dans l'histoire de la boxe à l'occasion de son mythique combat perdu contre Mohamed Ali devant 100 000 personnes à Kinshasa en 1974. Merci d'avoir suivi ce journal.